Nous allons lire plusieurs passages ensemble dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament. Je vous propose une première lecture dans le livre d'Esdras, au chapitre 1er, les 5 premiers versets, Esdras chapitre 1er, les 5 premiers versets de ce livre. Et puis nous passerons un peu plus tard au chapitre 6. Donc chapitre 1er, je lis au verset 1er, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Au chapitre 6, toujours du même livre, Esdras, nous lisons les versets 3 à 5. Esdras 6, versets 3 à 5. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et qu'elle ait de solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille, et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone, seront rendus, transportés au temple de Jérusalem, à la place où ils étaient déposés dans la maison de Dieu. Plus loin dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe au chapitre 44, Ésaïe chapitre 44, nous lisons les versets 26 à 28, chapitre 44, versets 26 à 28. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie et habitée. Des villes de Juda, elles seront rebâties. Je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et puis enfin, nous allons dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, dont nous lisons les versets 9 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 17. Je lis au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ que Dieu cultive et l'édifice que Dieu construit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera, testera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Nous voulons prier. Et si nous te prions, Seigneur, c'est parce que nous éprouvons fortement le besoin de dépendre de toi ce soir pour être assuré que ce soit toi qui nous parles. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Oh, certes, au travers de la fragilité humaine, mais c'est là le miracle de ta grâce. Tu te plais à utiliser des instruments humains fragiles pour faire entendre ta voix. Seigneur, nous avons soif que tu nous rencontres ce soir, que tu nous visites. Tu connais nos besoins, tu connais les besoins de ton peuple. Tu sais de quoi non seulement aujourd'hui est fait, mais aussi de quoi demain sera fait pour nos vies, à chacun, pour la vie de ton Église, dans notre pays, dans notre région, dans notre ville. Et nous croyons aussi qu'à travers ces réflexions, tu veux nous préparer aux temps qui viennent et que tu connais. Alors merci, Seigneur, de pouvoir proclamer ton triomphe ce soir au milieu de nous, ton action libre, le ministère de ton Esprit au moyen de ta parole parmi nous. C'est avec reconnaissance, avec confiance en toi que nous te prions. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous avez certainement vu sur votre chaise un petit document, ça n'a rien à voir avec le tiercé, le quartet plus ou le quintet ou que sais-je encore. Il s'agit donc d'une succession de dates. Je vous encourage à garder ce document et pourquoi pas à reproduire dans les marges de vos Bibles ces différentes dates. Elles sont importantes et elles ont ceci d'intéressant, c'est qu'elles situent les différents livres auxquels nous allons nous référer jusqu'à dimanche matin. Vous remarquerez Esdras 1 à 4, Agée, Zacharie, Esdras 5 et 6, l'histoire d'Esther, nous n'en parlerons pas, mais c'est pour vous la situer dans cet ensemble, puis Esdras 7 à 10, il y a même Malachie que nous n'évoquerons pas spécialement, et puis les différents chapitres du livre de Néhémie, chapitre 1er à chapitre 13. Donc tout cet ensemble, entre 587-586 avant Jésus-Christ et 432-431. Vous voyez donc ce puzzle de livres bibliques qui ne sont pas dans cet ordre, dans nos Bibles, c'est souvent là le problème, hein, comment mettre tout cela ensemble. Et c'est une petite aide et cela aussi m'évite de m'apesantir particulièrement sur ces questions d'histoire dès maintenant. Vous pourrez toujours y y revenir si je fais allusion à tel ou tel des personnages et des livres bibliques indiqués. Le livre d'Esdras et le livre de Néhémie sont riches en enseignements spirituels, en enseignements spirituels tout à fait pratiques. Ce sont des livres d'histoire qui concernent d'une manière toute particulière le peuple d'Israël, et nous pourrions être tentés de passer sur ces livres comme chat sur braise, en disant, mais quel peut bien être l'intérêt de ces vieux récits pour nous qui vivons à la fin du XXe siècle? Eh bien, détrompons-nous, derrière cette démonstration de la manière dont Israël est redevenu un peuple de bâtisseurs après un long exil, pratiquement 70 ans d'exil à Babylone, eh bien, derrière ces textes se trouvent donc de nombreux enseignements valables pour la construction de l'Église de Jésus-Christ là où nous sommes. Il suffit de voir dans les 6 premiers chapitres d'Esdras la densité de certains mots. Il y a 2 ou 3 mots qui reviennent très fréquemment, par exemple, dans les 6 premiers chapitres d'Esdras, 28 fois le verbe bâtir ou construire. D'ailleurs, 28 fois sur 29 fois au total dans l'ensemble du livre d'Esdras. Donc, il y a de toute évidence de la part de Dieu une indication très forte, une interpellation sur le thème de la construction. De la même manière, toujours dans ces 6 premiers chapitres d'Esdras, vous avez 62 fois des mots comme « maison de l'Éternel » ou encore « temple » ou encore « édifice ». C'est énorme, 62 fois. Si nous allons dans le livre de Néhémie, nous remarquerons là aussi dans les 6 premiers chapitres, c'est intéressant aussi, dans les 6 premiers chapitres, ou plus exactement jusqu'au chapitre 7, verset 1er, 22 fois le verbe construire. Cette fois, il n'est plus question de la construction du temple, de la maison de l'Éternel, mais des murailles et des portes de la cité de Jérusalem, parce qu'il y a un certain temps qui va s'écouler entre l'histoire contenue dans les deux livres, mais ceci je vous l'expliquerai plus longuement à un autre moment. Il y a donc dans la Bible de nombreux enseignements valables pour la construction de l'Église de Jésus-Christ là où nous sommes. Et je suis reconnaissant de ce que ce thème ait été choisi par les responsables ici de cette église, tout simplement parce qu'il constitue une bonne suite, un bon prolongement à ce que nous partagions ensemble en septembre 1994. Alors je pourrais vous poser une colle maintenant qui consisterait à vous dire, mais qu'avons-nous partagé en septembre 1994? Quel était notre grand thème? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, en dehors de notre ami qui présidait tout à l'heure, parce qu'alors il va gagner à tous les coups, mais est-ce que vous vous souvenez du thème que nous avons abordé il y a 2 ans? Je ne vous en voudrais pas si vous ne vous en souvenez plus, parce que vous avez sans doute entendu beaucoup d'autres choses depuis. Mais peut-être que quelqu'un a un éclair là lumineux et pourrait nous dire. Est-ce que quelqu'un se souvient? Écoutez, il se peut que ce soit un des enseignements précédents. Comme c'est la 4e fois, il y a eu la formation de l'homme spirituel avec David. Donc, vous avez de la mémoire. C'était encore avant. Mais quelque chose qui nous préparait à traiter notre sujet, à savoir les dons spirituels. L'Église, une communauté de service. Comment découvrir les dons spirituels? Qu'est-ce que les dons spirituels? Alors, bien entendu, vous comprenez que notre série de ce week-end s'inscrive dans le prolongement. Parce qu'il faut ensuite pratiquer. Et je sais qu'il y a eu un travail de suite qui a été effectué après notre week-end il y a 2 ans, justement pour aider chacun des membres de cette Église à envisager concrètement comment mettre, tout d'abord découvrir ses dons et comment les mettre au service de Jésus-Christ dans le cadre de l'Église locale. Alors nous allons aller plus loin en nous réjouissant de pouvoir curieusement considérer tout notre week-end à la lumière d'un texte qui n'émane pas d'un croyant, qui n'émane pas d'un juif, bien entendu qui n'émane pas d'un disciple de Jésus-Christ, puisque cela se situe de toute manière dans l'Ancien Testament, mais qui émane d'une personnalité païenne. Quand même extraordinaire de pouvoir, pendant tout ce week-end, appuyer nos réflexions sur un décret. Sur un décret royal. Mais un décret royal qui a cette particularité, c'est qu'il est, je dirais, remarquablement orthodoxe, remarquablement juste. Voilà un homme qui ne met pas sa confiance en l'Éternel, dans le Dieu d'Israël. C'est un roi païen, c'est un roi dominateur. Et pourtant, son décret est vraiment inspiré de Dieu. Nous l'avons au verset 3 d'Esdras 1. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, nous pourrions ajouter cette petite expression parce que elle est contenue dans la pensée du texte original. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem et bâtisse en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Et c'est intéressant parce que ce décret a déjà été imprimé une première fois, nous a déjà été communiqué dans la fin du deuxième livre des Chroniques, au chapitre 36, donc, à partir du verset 22, donc juste avant dans votre texte, hein, comme dans le mien, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Voyez donc à quelques versets d'intervalle, Dieu a trouvé bon de sélectionner deux fois, à quelques mots près, ce même décret d'un roi païen parce qu'il avait un enseignement pour nous. Et il nous donne, ce roi païen, par ce décret, le plan de notre réflexion jusqu'à dimanche matin. Première partie au verset 3. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple? Une question. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser ce soir. Devenir un bâtisseur pour Dieu, c'est pouvoir, bien entendu, répondre de manière claire à cette question fondamentale. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, et de son peuple. Alors nous allons l'aborder sous un certain angle. Nous allons, d'ici dimanche matin, considérer trois grandes tentations. Et chacune des trois parties de ce décret, il y a trois parties dans ce décret, nous venons de souligner la première dans cette question « Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple ?» Chacune des trois parties de ce décret recèle une tentation. Et ce soir, nous allons nous arrêter d'une manière toute particulière sur la tentation de l'amalgame. Vous verrez ce que nous voulons dire par là. D'ici la fin de notre réflexion, nous aurons enfoncé le clou, nous aurons illustré et nous pourrons bien comprendre l'importance de réaliser cette tentation qui certainement est plus que jamais un des principaux problèmes de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et je me réjouis de ce que nous abordions notre thème sur cette base-là. Demain après-midi, nous verrons la suite de ce décret, que son Dieu soit avec lui. Et pour devenir un bâtisseur de l'Église de Jésus-Christ, pour nous édifier les uns les autres, pour construire l'Église de Jésus-Christ, il faut que je m'assure que mon Dieu soit avec moi. Ça peut apparaître banal comme ça. Parce que c'est vrai que nous disons avec une facilité parfois tellement déconcertante, là où Dieu, deux ou trois sont assemblés en mon nom, a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Et puis voilà, on enfonce tout ça, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas aussi évident qu'il y paraît. Et nous verrons donc demain après-midi, dans notre seconde étude, la tentation du découragement dans la construction de l'Église de Jésus-Christ. La tentation de la résignation, parce qu'elle transpire en particulier du livre d'Esdras et également des livres d'Agée et de Zacharie lorsqu'ils traitent de la même époque. Et puis demain soir, dans notre troisième étude, nous verrons la suite de ce décret, troisième partie, qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, qu'il monte. Devenir un bâtisseur, c'est accepter de monter. Monter à Jérusalem, ce qui va nous conduire à considérer d'une manière particulière l'expérience d'un homme qui est monté à Jérusalem pour bâtir. Et nous allons essayer de peser ensemble par quel processus il est passé pour en arriver à faire ces pas qui l'ont conduit dans sa situation personnelle jusqu'à Jérusalem. Et cela va nous interpeller en ce qui concerne les impératifs pour nous. Dieu va nous dire demain soir, il n'y a pas que ce personnage qui doit monter. Vous et moi, nous sommes nous aussi appelés à monter, et doit se passer dans notre cœur un travail du même genre que celui qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Et là, nous sommes confrontés à une troisième tentation, la tentation de l'indifférence. Ou la tentation encore de l'égoïsme indifférent. Nous verrons ce que cela signifie dans le contexte de l'époque et pour nous aujourd'hui. Donc nous allons évoquer ce soir et maintenant cette stratégie de l'adversaire. Il y a une constatation assez impressionnante que fait le lecteur de ces deux livres d'Esdras et de Néhémie. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité et peut-être même la sagesse de vous préparer à vivre ce week-end dans les lisants, puisque ceci était annoncé, les livres dans lesquels nous allions travailler étaient annoncés. Mais si vous avez quelque peu parcouru les livres d'Esdras et de Néhémie qui concernent des événements qui se situent à quelque 90 ans d'intervalle, vous avez certainement constaté ceci, c'est que dès qu'il y a réveil spirituel, dès qu'il y a action de Dieu dans le cœur de ses enfants, de son peuple, l'ennemi aussitôt se dresse. Ceci est très fort dans le livre d'Esdras au chapitre 4. Au chapitre 3, il est question de la pose des fondations du temple, qui donne lieu à des réactions assez paradoxales, liées au passé de ceux qui vivent l'événement. Les uns pleurent pendant que les autres rient, et c'est normal, parce qu'il y a ceux qui ont connu les splendeurs passées de l'ancien temple, et puis il y a la jeune génération qui se réjouit, qui n'a rien, en quelque sorte, de connaissance personnelle de ce passé historique, et qui, elle, se réjouit parce que on vit un moment intense, le temple représente beaucoup de choses, et immédiatement après, chapitre 4, verset 1er, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous laisserons la suite du texte pour un peu plus tard. Mais vous remarquez, les ennemis apprennent. Les ennemis. Tout de suite, il est question d'ennemis. On vient à peine de poser les fondations que déjà l'ennemi se dresse. Si vous allez au début du livre de Néhémie, donc le livre suivant, au chapitre 2 et au verset 10, à peine Néhémie arrive-t-il dans la région de Jérusalem, qu'il nous est dit au verset 10, Sanballat le Horonite, au nord de Jérusalem, Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Voyons, il n'a pas encore commencé à lancer le travail de reconstruction sur place que les ennemis sont déjà là, en plein déplaisir, et bien entendu, ils ne vont pas tarder à agir. Chapitre 4, verset 1, alors c'est assez facile, hein? Esdras 4, 1, Néhémie 4, 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Et au verset 7, il nous a dit, « Mais Sanballat, qui représente l'ennemi qui vient du nord, Tobija représente l'ennemi qui vient de l'est, les Arabes étaient au sud, les Ammonites c'était aussi Tobija, c'était à l'est, et les Asdodiens c'était sur la côte, aujourd'hui Asdod, ça vous dit peut-être quelque chose, sur la côte méditerranéenne d'Israël, n'est-ce pas? Donc c'était l'ouest, nord, est, ouest, sud, tout y est, hein? Et ils furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Je suis persuadé que si, il y a 2 ans, à la suite de notre série de réflexions sur l'exercice des dons dans l'Église, certains d'entre vous ont eu à cœur vraiment de se mettre au travail. Je ne le sais pas. Mais je suis absolument certain qu'à partir du moment où quelqu'un a décidé de se mettre au travail dans l'église locale, il a aussi commencé à réaliser, peut-être comme jamais auparavant dans sa vie de disciple de Jésus-Christ, que la vie chrétienne est une guerre spirituelle. Vous savez, je le réalise moi-même continuellement. Quand je n'ai pas de série de conférences pendant mes semaines de vacances, tout va bien. Mais dès que j'approche du démarrage d'une série de conférences, je sais que je suis sur un terrain de combat. Après notre programme d'été, qui est chaque année un programme spécial, j'ai repris mes voyages le week-end dernier, et j'avais donc une série de conférences à Châteauroux. Ma première conférence avait lieu le samedi soir, et le vendredi après-midi, je devais emmener mon épouse à l'hôpital. Elle en est sortie, elle a un problème pour quelques semaines, mais c'était là. Nous sommes engagés dans un combat. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit de manière très suggestive, quand quelqu'un se convertit à Christ, Satan l'inscrit aussitôt dans son carnet d'adresse. Ceci n'est pas fait pour nous décourager. Nous allons parler de la tentation du découragement. Je préfère ce combat à la somnolence bien plus dangereuse, bien plus coûteuse, et qui ne satisfait pas le cœur. C'est dur le combat. Mais on expérimente la présence de Dieu, on expérimente les miracles de Dieu. Dieu nous a promis un débarquement sûr, il ne nous a pas promis une calme traversée. Et devenir un bâtisseur, c'est donc entrer dans un combat spirituel. Et dans ce combat, nous allons voir que Satan va essayer d'utiliser tous les moyens pour stopper la construction et pour faire reculer l'œuvre de Dieu sur le terrain. Alors ce qui nous encourage, c'est de savoir que dans les livres d'Esdras et de Néhémie, Dieu a gagné. Dieu a gagné. Ça a été difficile, mais Dieu a gagné. Et je voudrais que nous gardions cette perspective. Dieu a été le grand vainqueur dans les situations difficiles. Mais en tout cas, il faut savoir que l'ennemi fera tout pour que nous tombions dans les pièges qu'il nous tend, de manière à stopper la construction de l'Église de Jésus-Christ là où nous sommes. Et nous sommes placés devant cette alternative où nous reculons où nous triomphons. Pas moyen de nous tenir entre les deux dans une espèce de neutralité, non? Dans la vie chrétienne et dans la construction de l'Église, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de l'Église locale, que ce soit sur un autre niveau encore plus étendu, ou bien nous reculons, ou bien nous triomphons. Reprenons maintenant ce décret de Cyrus. Verset 3. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple? Donc, Cyrus, de la part de Dieu, dit à Israël, aux Juifs, qui sont là dans la déportation à Babylone, et qui sont très nombreux. La grande majorité de la population avait été déportée là, et puis s'était développée là, à Babylone. Il leur dit, il est important pour repartir à Jérusalem que chacun de ceux qui veulent reconstruire appartienne bien au peuple de Dieu. Appartenir au peuple de Dieu. Alors nous aurions pu passer notre soirée à évoquer le peuple de Dieu au travers des Écritures. C'est un thème très intéressant. Je ne le ferai pas. Je l'aurais fait si nous avions eu une soirée qui était vraiment tournée vers l'extérieur, avec un certain nombre d'amis présents, ne connaissant pas du tout Jésus-Christ. Mais j'aimerais simplement faire rapidement deux ou trois petites remarques. Tout d'abord, souligner que la première fois où, dans la Bible, le mot « peuple » est utilisé pour évoquer le peuple de Dieu, c'est au début du livre de l'Exode. Non pas dans la Genèse, mais curieusement, au début du livre de l'Exode, lorsqu'il est dit, par exemple, et c'est Dieu qui parle à Moïse, dans le début du livre de l'Exode, Exode chapitre 3, verset 10, 5, verset 1, Exode 3, verset 7 aussi, « Maintenant, dit l'Éternel, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et quand on commence à analyser tous ces textes, des chapitres 3 à 10, en particulier du livre de l'Exode, on se rend compte que le terme « mon peuple », l'expression « mon peuple » revient 16 fois. Et quand on analyse de plus près, on se rend compte que Israël est véritablement devenu le peuple de Dieu au moment où chaque juif en Égypte a offert au niveau de sa famille un agneau sans défaut âgé d'un an en sacrifice et qu'on a pris le sang de cet agneau pour en badigeonner les montants des portes des demeures israéliennes ou israélites en terre égyptienne. C'est-à-dire que le peuple de Dieu dans la pensée de Dieu est constitué d'hommes et de femmes qui se sont mises à l'abri du jugement de Dieu. Du jugement de Dieu qui devait passer sur l'Égypte. Là où l'ange de l'Éternel voyait le sang, il passait par-dessus. Il ne frappait pas. Et ceux qui étaient protégés par le sang de cet agneau sans défaut savaient qu'ils allaient connaître une libération absolument extraordinaire. Ils allaient quitter l'Égypte. Ils allaient partir, se mettre en route pour atteindre bientôt le pays promis. Parce que le sang était passé par là. Nous qui connaissons tant soit peu les Écritures, nous savons comment Jean-Baptiste va désigner Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1er, n'est-ce pas? Et il est bien évident qu'il y avait un lien très étroit entre l'agneau immolé et dont le sang était utilisé sur les portes des demeures des Juifs en Égypte et l'agneau, le Seigneur Jésus, immolé pour chacun d'entre nous en sacrifice sur la croix. Être membre du peuple de Dieu, c'est donc éviter le jugement, la condamnation éternelle, parce que l'on s'est placé de manière personnelle à l'abri du sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé pour chacun d'entre nous. Et c'est incroyable le nombre de textes dans les Écritures qui parle d'un peuple que Dieu s'est racheté, qu'il a acquis, pour lequel il a en quelque sorte accepté de payer une rançon extrêmement forte, ni de l'or, ni de l'argent, ni des pierres précieuses, ni des billets de banque, que sais-je encore, ni des lingots d'or. Mais c'est le sang précieux de Christ, qui fait toute la différence. Et il y a tout au long des Écritures une quantité de textes extraordinaires. Je vous en cite 2 ou 3, Tite 2, 14, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de toute faute, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple d'hommes et de femmes qui savent qu'ils ont été rachetés de manière personnelle. 1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple que Dieu s'est acquis précisément parce que le sang de Christ a été versé sur la croix, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est intéressant, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et nous pourrions prendre quantité d'autres passages allant dans la même direction. Importance donc d'appartenir au peuple de Dieu et d'en avoir la certitude. Ce n'est pas présomptueux que de dire « je sais que j'appartiens au peuple de Dieu ». Ce n'est pas présomptueux. Parce que déjà l'Ancien Testament, mais encore plus le Nouveau Testament, est rempli d'affirmations, d'assurance à ce sujet. Celui qui se tourne vers Jésus-Christ, celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, celui qui se place au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ a la vie éternelle. Il l'a pas peut-être ben cuit, peut-être ben que non. Il ne l'aura pas peut-être un jour s'il se conduit de manière à le peuple d'Israël. Et en plus, pour certains d'entre eux, qu'ils appartiennent aux tribus, à la tribu qui donne les sacrificateurs. Ce texte, et d'ailleurs c'est intéressant, répété dans Néhémie au chapitre 7, versets 61 à 65. Deux fois donc, dans chacun des livres. Carte d'identité introuvable. Et c'est un problème. Regardez maintenant, nous allons prendre quelques textes. Regardez Ézéchiel, chapitre 13. Ézéchiel, chapitre 13, à partir du verset 1er. Nous allons prendre à partir du verset 1er pour avoir le contexte. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et disent à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit, qui ne voient rien, tels des renards au milieu des ruines. Tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Vous remarquez qu'il y a déjà là un langage de construction, hein? Leurs visions sont vaines, leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, je ne leur ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines, et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Et voilà le verset important. Ma main sera contre les prophètes, dont les visions sont vaines, et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Une autre traduction, rendra ainsi, ils ne siégeront pas au conseil de mon peuple, ni ne seront inscrits sur la liste des membres de la communauté israélite. Voyez donc qu'il y a dans la pensée de Dieu une importance attachée à cette question d'identité. Voilà des juifs, mais qui se conduisent en faux prophètes, qui racontent absolument n'importe quoi, et surtout ce qui favorise leur bien-être matériel, qui caressent les juifs dans le sens du poil pour qu'ils reçoivent abondance de dons et situations faciles, paisibles et que sais-je encore, et bien qu'ils soient juifs. Dieu dit à leur sujet, non, vous ne serez pas inscrits sur les listes des membres de mon peuple. Je refuse de vous donner une carte d'identité. Inutile d'essayer de rentrer au pays. Et c'est dans un contexte de construction, regardez la suite. Ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel, ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille. Vous voyez qu'on est dans le contexte de la construction. Et eux, ils la couvrent de plâtre, ils mettent du crépi, dirions-nous aujourd'hui. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra, et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. Et voici, la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre, je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu, elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines et vous saurez que je suis l'Éternel, etc., etc. Bien entendu, le peuple d'Israël, là, est en faillite. Il est infidèle à l'Éternel. Et il essaye de se bâtir des murailles de protection, parce qu'il est incapable de compter sur la fidélité de Dieu. Il essaye de se protéger comme il le peut, et il a fait des alliances à droite, à gauche, avec les Égyptiens, avec les Assyriens. Il a adopté les coutumes babyloniennes, etc., n'est-ce pas? Ça, c'est sa muraille. Et ceux qui devraient dénoncer cette manière de se protéger qui ne sert absolument à rien, qui n'aboutira pas, ceux-là, au contraire, mettent du crépi. Ils vont dans le même sens que le peuple. Et Dieu est obligé de dire, je ne suis pas d'accord. Et je vais intervenir et je vais faire tomber ces murailles faussement protectrices et vous verrez vous-même que votre plâtre ne sert absolument à rien. Ce sont des bricoleurs, ce sont des tricheurs. Ils recouvrent des murs de pierre sèche d'enduit de plâtre et ils procurent l'illusion d'une fausse sécurité. Tout ça parce qu'ils prennent des libertés avec la parole de Dieu. Leur message est en contradiction avec la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les Écritures. Vous auriez pu, et vous pouvez le noter si vous le désirez, nous n'allons pas lire le texte, mais dans Ézéchiel 22 et dans les versets 23-31, vous avez un texte qui va tout à fait dans le même sens. Nous avons parlé de la sortie d'Israël d'Égypte, hein, avec l'agneau sacrifié. Eh bien, allez voir avec moi dans Exode chapitre 12, le chapitre 12 est précisément le chapitre de la Pâque juive, et de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et au verset 37 et 38, il y a une petite précision qui est très intéressante. Exode 12, 37, 38, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Nous aurions pu traduire un mélange nombreux. C'est là le sens le plus proche de l'original, ou encore tout un ramassis. Alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que cela nous montre que, bien sûr, il y avait les Juifs qui étaient au bénéfice du sang de l'agneau pascal, qui se sont ébranlés. Mais il y en a qui ont profité du voyage. Tout un ramassis, une multitude de gens qui, d'une part, n'étaient pas juifs et qui, d'autre part, ne renonçaient pas pour autant aux divinités égyptiennes. Mais simplement, elles se mêlaient au flot. Pourquoi ? Ben, parce qu'elles étaient ce qu'on appelle des personnes opportunistes. Puisque c'était le Dieu d'Israël qui était en train de gagner, que les divinités égyptiennes étaient en déroute, que même Pharaon était obligé de s'incliner devant l'Éternel parce que son fils premier-né lui-même, son successeur, était frappé de mort par l'Éternel, eh bien, dans la mesure où c'était le Dieu le plus fort, il valait mieux être bien avec lui. Il était intéressant d'aller avec le peuple d'Israël parce qu'on était du bon côté. Vous savez, on retrouve ce ramassis plus tard. On retrouve ce ramassis, par exemple, dans le livre des Nombres, au chapitre 11. Nombres, chapitre 11. Au verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, etc. etc. » Hey. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tant que ça allait bien dans le désert, ben, le ramassis était content. Ils se regardaient les uns les autres et ils disaient « On a fait le bon choix. » Formidable! Qu'est-ce qu'il est bien, ce Dieu d'Israël! Qu'est-ce qu'on est bien servi! C'est un Dieu qui s'occupe de nous, c'est un Dieu qui fait des miracles extraordinaires, mais regardez-moi ça, il n'y a même plus besoin de travailler! Mais quand ça a commencé à se corser un petit peu, quand les difficultés se sont installées, quand Dieu a même commencé à devoir juger son peuple dans le désert, ben qui a semé le mécontentement au milieu d'Israël? Qui a poussé au murmure? Qui a poussé à la révolte? Ben, ce sont eux. Ils ont formé leur petit syndicat, hein? Et puis ils ont dit, ben, on a eu tort. On a eu tort, c'était peut-être quand même mieux de l'autre côté. Et ils ont entraîné le peuple d'Israël à avoir une mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu. Il y a d'autres textes, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans les premiers livres de la Bible, qui vont exactement dans la même direction. Notamment, par exemple, dans Lévitique, au chapitre 24 et au verset 10, les opportunistes. Et cela me rappelle, c'est une illustration qu'il m'est arrivé d'utiliser à plusieurs reprises, je suis moi-même d'origine protestante. Et j'ai habité pendant mon enfance à la frontière franco-luxembourgeoise, dans une région, tout comme pour la Belgique, le Luxembourg et d'autres régions, attachée beaucoup d'importance à Saint-Nicolas, le 6 décembre, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et quand j'étais enfant, comme tous les enfants de notre région, j'attendais le 6 décembre avec beaucoup d'impatience. Parce que le 6 décembre, Saint-Nicolas, c'était le Père Noël 15 jours avant. Il venait dans les écoles, il venait dans les maisons, il frappait aux portes, et il avait un cadeau pour chaque enfant. Oh, il y avait bien sûr Père Fouettard, qui était aussi là dans le coin, et qui avait des tricks pour ceux... les enfants qui n'étaient pas sages, qui ne travaillaient pas bien à l'école, et les parents avaient soufflé dans l'oreille de Père Fouettard parfois qu'il fallait donner une trique au lieu de laisser Saint-Nicolas donner un cadeau. Alors vous imaginez un petit peu l'ambiance dans les premiers jours de décembre. Mais mes parents me disait, Maurice, nous sommes protestants. Et si nous sommes protestants, tu sais, Maurice, ça veut dire que nous ne croyons pas à Saint-Nicolas. Parce que nous n'acceptons pas ce que la Bible ne dit pas. Nous ne croyons pas à ces saints. C'est un enseignement qui n'est pas dans la Bible. Donc, ce n'est pas pour nous. Alors, bien sûr, avec ma tête, je comprenais. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour nous. Je suis protestant, ce n'est pas pour moi. Eh oui, mais... Vous savez, quand vous avez... les papilles gustatives qui se mettent à frémir et la salive qui monte et que vous commencez à rêver la nuit du passage de Saint-Nicolas quand on est enfant, hein? Alors qu'est-ce qui se passait? Eh bien, le 6 décembre, je cessais d'être protestant. Juste le 6 décembre. Je n'allais tout de même pas refuser les cadeaux de Saint-Nicolas. Alors, le 7 au matin, j'étais redevenu un bon protestant, le seul de mon école d'ailleurs. Pendant 364 jours sur 365, j'étais le champion des protestants. Mais il y avait un jour où je taisais ma religion. C'était le 6 décembre. C'est de l'opportunisme. Bien sûr, on comprend, hein, quand on est enfant. Mais quelqu'un a parlé de l'opportunisme précisément comme de la théologie de Saint-Nicolas, qui consiste à marcher avec le peuple de Dieu... Tant que ça va bien, tant qu'on est bien ensemble, tant que la chance de Dieu nous sourit. Puis quand le vent se met à tourner, que ça devient un peu difficile, hein, quand il y a l'épreuve, quand on a l'impression que tout commence à aller de travers, quand on tombe malade, quand le chômage pointe à l'horizon, quand tout ne tourne pas selon nos petites équations, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question pour nous. Est-ce qu'on devient comme... ce qu'on appelle en Chine les chrétiens de riz, ceux qui étaient tout juste chrétiens pour pouvoir bénéficier des distributions de riz. Quand il n'y avait plus de riz, ils n'étaient plus chrétiens. Regardez, allons plus loin. Esdras chapitre 4, nous avons évoqué déjà ce passage, mais nous allons plus loin. Esdras 4, verset 1er, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ezaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter d'ici. » Intéressant, hein, ce passage. Offre de collaboration. Offre de collaboration de la part d'une population toute particulière, une population hybride, qui sera connu plus tard sous un nom que nous connaissons bien, nous qui lisons les Écritures, ce sont les Samaritains. Les Samaritains. Il suffit de lire 2 Rois chapitre 17 pour voir ce que sont les ancêtres de ces fameux Samaritains. Ça s'est passé en 722 avant Jésus-Christ, c'est un roi assyrien, Sargon, qui avait amené des colons d'autres régions de son empire pour les mêler aux quelques Israélites qu'il avait laissés dans le territoire du royaume du Nord. Et ces gens avaient accepté la religion de l'Éternel tout en conservant leur idolâtrie. Et vous avez ce verset 33 de 2 Rois 17 qui est très intéressant. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Une sorte d'amalgame de foi et d'idolâtrie. Nous invoquons votre Dieu. C'est intéressant, ils ne disent pas tellement « nous invoquons notre Dieu ». Nous invoquons votre Dieu. Et l'historien juif Joseph, qui a écrit dans le courant du 1er siècle, et on sait beaucoup de choses par lui, a écrit ceci, que les Samaritains se vantaient de leur parenté avec les Juifs quand la situation de ceux-ci était prospère, mais ils se disaient issus des Assyriens quand les Juifs étaient dans l'adversité. Alors vous avez remarqué à travers tous ces textes qu'il y a un enseignement crucial concernant la construction de l'Église. Et qui nous dévoile le premier piège dans la construction d'église locale. Et le premier piège dans la construction d'église locale, c'est de céder à la tentation de l'amalgame. C'est-à-dire de faire travailler ensemble, d'unir ensemble dans une même activité des personnes qui en réalité sont faites pour tout sauf pour vivre dans l'unité. Comme le dira Le prophète Daniel s'est essayé d'unir étroitement de l'argile et du fer dans Daniel au chapitre 2, dans la fin de Daniel 2. C'est pas possible. L'amalgame. L'ennemi va essayer de s'infiltrer. Il va essayer de s'infiltrer sous couvert de spiritualité. On va essayer d'entrer dans l'église locale. Moi, je connais une église locale, et de très près, qui vit des temps extrêmement difficiles, simplement parce que, à un moment donné, dans sa légèreté spirituelle et dans la légèreté spirituelle évidente de ses conducteurs, elle a laissé s'infiltrer un franc-maçon. Et un franc-maçon qui est franc-maçon au 17e échelon, ce qui n'est pas rien, et que j'ai moi-même eu au téléphone. Donc je ne le dis pas simplement par les rumeurs et les bruits qui courent, mais parce que j'ai été saisi du problème. Et cet homme est entré dans l'église. Un jour il a été baptisé, il est devenu membre de l'église, et maintenant il est en train de détruire l'église de l'intérieur, et c'est terrible. Tentative d'infiltration. Essayez de s'infiltrer sous le couvert de la spiritualité. Vous avez besoin d'un coup de main pour construire. Vous êtes un petit nombre. Vous êtes un poste pionnier, une petite église en Arles. Vous avez tant besoin d'aide. Ben voilà, on est là, nous. Vous savez, quand on est peu nombreux, c'est tentant, hein, de devenir un petit peu élastique dans le domaine de la foi. De changer les mesures, d'abaisser la toise, comme on dit, des exigences de l'évangile au niveau du salut. C'est facile de se contenter de décisions de gens simplement qui lèvent la main, hein, et de considérer que parce qu'ils ont levé la main, ils doivent appartenir à Jésus-Christ. C'est facile de se contenter de conversion au rabais. J'ai relevé qu'il y a déjà quelques années, la Fédération internationale de football avait décidé que les buts des terrains de football allaient être agrandis en hauteur et en largeur afin que plus de buts soient marqués. C'est parfois ce qu'on fait dans l'église, quand on veut avoir plus de succès, quand on veut faire plus impression, quand on veut faire nombre, parce que nombre égale poids, et parce que poids égale influence. Alors c'est tentant d'être moins exigeant, de faire moins attention, de simplement s'arrêter à ceux qui nous disent mais votre Dieu c'est le mien. Oh, je pense à un texte de la Bible, Josué chapitre 9, alors que Israël est en train de s'emparer progressivement du territoire, de son territoire du pays promis. Et puis une coalition se forme, qui menace. Et à ce moment-là, curieusement, voilà des gens qui arrivent au camp de Josué et qui lui disent: oh, tu sais Josué, et vous peuple d'Israël, nous venons d'un pays lointain, sur le renom de l'Éternel nous avons entendu parler de la célébrité de votre Dieu, et nous venons de loin, et nous venons pour faire équipe avec vous. Vous pourriez ne pas nous croire, mais regardez un petit peu, regardez comment nous sommes mal habillés, regardez comme nos vêtements sont usés, regardez un petit peu l'état de nos sandales. Vous voulez regarder dans nos gypsières, dans nos sacs, pour voir l'état de ce qui reste de nos galettes, mais regardez un petit peu, tout ça c'est moisi. Voyez, nous avons fait une longue distance pour vous rejoindre, parce que nous avons entendu parler de votre Dieu. Est-ce qu'on peut faire alliance ensemble? Et dans Josué 9, verset 3 et suivant, Josué et les autres chefs du peuple font alliance. Ils acceptent de les intégrer, de les accepter. Vous comprenez? Ils étaient dans une situation difficile. Il y avait une armée qui était là, qui menaçait. Une grande coalition. Vous vous rendez compte? Mais c'était un cadeau de Dieu que ces Gabaonites, les Gabaonites, ils habitaient juste à côté. Ils faisaient partie de ces nations païennes qu'Israël devait détruire au nom de l'Éternel. Et le résultat, c'est que ces Gabaonites ont été une épine dans le pied d'Israël pendant des années et des années. Il y a eu des problèmes à cause des Gabaonites. Parce que c'est 3 jours plus tard, 3 jours après avoir fait cette alliance, vous lirez Josué 9, 3 jours seulement, que Josué et les anciens du peuple se sont rendus compte qu'il s'agissait de Gabaonites. Vous savez ce que nous voyons ce soir, et je vais m'arrêter là parce que le temps passe. Mais ce que nous voyons ce soir est important. Parce que nous, évangéliques en France, et je ne parle que de la France, nous sommes très souvent en train de nous laisser tromper, abuser. On nous dit que le catholicisme, les évangéliques, les protestants, réformés, luthériens, et tout ça, ça croit en Dieu, ça croit en Christ. Que la seule recommandation qui est donnée, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, et que ça suffit comme ça pour être peuple de Dieu. Qu'il suffit d'avoir un langage religieux, de parler de la Bible, d'utiliser le nom de Christ pour pouvoir être considéré comme étant membre du peuple de Dieu. Moi, je ne le crois pas. Et je suis inquiet quand je vois le nombre de frères et sœurs dans notre milieu évangélique qui pensent pouvoir collaborer avec n'importe qui. Ce n'est pas juste. Où pouvons-nous trouver une telle justification dans les Écritures? Et alors, on le fait parce que, généralement, on dit oui, mais les autres le font aussi. Il y a un tel, il y a des grands noms, des huiles évangéliques, comme on dit, qui pratiquent ainsi, qui ne voient aucun inconvénient à collaborer avec le catholicisme, avec le protestantisme officiel, et que sais-je encore. Alors pourquoi pas? Pourquoi ne collaborerions-nous pas avec l'Église adventiste? C'est vrai qu'il y a dans la secte adventiste, parce qu'officiellement elle reste une secte que nous en ayons envie ou non, Bible en main, il y a un certain nombre d'authentiques enfants de Dieu, sur un plan personnel, comme il y a dans le catholicisme d'authentiques enfants de Dieu, sur un plan personnel, qui généralement d'ailleurs ont beaucoup de peine à grandir, parce qu'ils ne sont pas dans une famille spirituelle qui les aide dans leur croissance, mais dans un système qui va à l'encontre de leur croissance. Alors mes bien-aimés, faisons attention à la tentation de l'amalgame. Et plutôt que de regarder à ce que tel ou tel pasteur, telle ou telle huile évangélique ou telle église fait, en pensant que si ils le font, c'est bien, venons aux Écritures. Venons à la parole de Dieu. Parce que, et je termine par là, parce que Jésus nous a quand même prévenus. Notre frère, dans l'introduction, évoquait Matthieu chapitre 7, qui constitue d'ailleurs, et c'est intéressant, le dernier texte qui est sur mon manuscrit, et c'est bien de l'avoir donc cité tout à l'heure. Nous allons dans la même direction. Mais avant cette parabole des deux maisons, l'une bâtie sur le roc des Écritures, l'autre bâtie sur le sable, qu'est-il écrit ? C'est intéressant. Tout d'abord, verset 13, entrée, Matthieu 7, 13, entrée par la porte étroite. Entrée par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Donc ne cherchons pas à être la majorité. Bien sûr que nous serions heureux, moi le premier, si toute la France était convertie en Jésus-Christ. Mais je reconnais que Jésus a annoncé que ça ne serait pas le cas. Il y en a peu qui le trouvent. Et nous n'avons pas le droit d'élargir le chemin et la porte pour qu'un maximum entre. Nous n'avons pas le droit. Et ça, c'est notre tentation. Et c'est pour cela que vous avez la suite après. Verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans Ézéchiel. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, on dit oui, mais leurs fruits, il y en a un tas. Et on peut se tromper dans les fruits. Il faudrait peut-être savoir si nous avons la même idée que Dieu sur les fruits qui permettent de reconnaître le vrai du faux. Et c'est pour cela qu'il y a ensuite une précision, verset 21 suivant. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc les fruits au niveau du langage sont déjà insuffisants. Vous pouvez dire « Seigneur, Seigneur » du matin au soir et mille fois dans vos prières, c'est insuffisant. Et vous pouvez donc même confesser la seigneurie de Jésus-Christ dans la plus belle des confessions de foi, c'est encore insuffisant. Donc ces fruits-là, insuffisants. Il est dit, seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de mon Père. Alors, la Bible est le livre de la volonté de Dieu. C'est à elle que je dois continuellement me référer pour savoir ce qu'est la volonté de Dieu et ce que n'est pas la volonté de Dieu. Et alors vous avez quelques exemples précis. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton règne, des œuvres ? » Il y en a qui vont venir frapper à la porte de votre église, « Mais moi j'ai chassé des démons, j'ai fait des œuvres, et qui sait, je me suis même attaqué à la puissance des ténèbres, rendez-vous compte, ministère d'exorciste. » C'est pas donné à tout le monde. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Moi, j'ai exercé un don de guérison. Alors, je leur dirai ouvertement, et vous savez, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus. L'amour incarné qui parle et qui dit, je ne vous ai jamais connu. Je sais tout de vous, mais je ne vous ai jamais connu. Nous n'avons jamais entretenu de vraies relations ensemble. Nous n'avons jamais eu d'intimité. Je n'ai jamais pu entrer chez vous, m'asseoir vraiment, personnellement, à votre table. Pourquoi ? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah oui ? On peut avoir un langage pur, religieux, évangélique. Insuffisant. Il faut plus que ça. Il faut une relation personnelle, vivante, étroite avec Christ. Et une soumission de tout son cœur à sa parole. Un commentateur écrit ceci, alors que les chiens et les porcs sont relativement faciles à reconnaître du fait de leur attirance pour la saleté, les loups, eux, se glissent dans le troupeau sous l'apparence d'une brebis. Les imprudents les confondent avec le reste du troupeau et les accueillent. Souvent, leur vraie personnalité n'apparaît que lorsque le mal est déjà fait. Un faux docteur ne se fait pas de publicité comme diseur de mensonges. Au contraire, il se vante d'enseigner la vérité. D'autre part, il dissimule ses sombres intentions sous un vêtement de christianisme. Il sait que les chrétiens forment un peuple crédule. Il compte ne pas être démasqué dans son habit d'innocence. Parfois, il y ajoute même le langage de l'orthodoxie historique en lui donnant un sens différent. C'est-à-dire qu'il utilise un langage évangélique. Il va vous parler de foi, de mission, de conversion, d'église, de Jésus, de Christ, de résurrection. Mais quand vous allez commencer à discuter et à creuser avec lui, vous allez vous rendre compte qu'il vous parle de résurrection, mais il ne croit même pas à la résurrection de Jésus-Christ. Hein ? Il utilise un langage, mais il ne lui donne pas le contenu que Dieu donne à ce langage. Alors vous avez des gens qui vous disent, y compris des pasteurs, qui vous disent « Mais moi je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. » Mais vous savez, peu importe qu'il ait existé ou non. Oh, je ne crois pas qu'il soit mort sur la croix. Ça, ce sont des histoires. C'est pas important qu'il soit mort ou non sur la croix. L'important, c'est de se souvenir de tout ce que l'idée peut contenir pour nous faire du bien. C'est problématique, hein. Cette orthodoxie du langage. Quand je travaillerai lié dans l'aumônerie militaire en Allemagne fédérale, l'aumônier principal m'a accueilli, je venais de terminer ma formation théologique, pour que je puisse travailler là librement dans le cadre de cette aumônerie, et il s'est présenté à moi comme un évangélique, jusqu'à ce que nous ayons un bon entretien. Et dans le courant de cet entretien, je me suis rendu compte que cet homme ne croyait pas à l'enfer, aux peines éternelles. Il n'était pas évangélique. C'était un ami des évangéliques. C'était un sympathisant. Mais par certains côtés, c'était un ennemi de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a parlé de la manière la plus claire qui soit des peines éternelles. Donc, prétendre servir Jésus-Christ tout en affirmant ne pas croire aux peines éternelles, c'est faire de Jésus un menteur. Vous comprenez ? Alors, gardons-nous, et je m'arrête là, de la tentation, de l'amalgame. Cet auteur ajoute d'autres fois, ce faux docteur se cachera sous la couverture des titres académiques impressionnants. Gardez-vous, dit Jésus. Être sur nos gardes, c'est demander à Dieu son discernement, utiliser nos facultés critiques, ne jamais relâcher notre vigilance. L'apparence extérieure d'une personne, son charme, sa formation, ses titres, ses distinctions ecclésiastiques ne doivent pas éblouir les disciples de Christ. Derrière le docteur en théologie, le professeur ou l'évêque, ils doivent apprendre à voir s'il y a un agneau ou un loup. Et le mot de la fin, c'est Esdras 4, hein? Nous avons lu les trois premiers versets, que dit le quatrième, ou le troisième? Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné Cyrus, le roi Cyrus, roi de Perse. Mes amis, c'est pas populaire, c'est mal vu aujourd'hui, c'est être intolérant. Mais mes bien-aimés, j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a des domaines essentiels dans lesquels Dieu est le champion cosmique de l'intolérance. Il y a des chapitres entiers dans les Écritures qui sont consacrés à la tolérance. Romains chapitre 14 par exemple, et d'autres. Mais dans les choses essentielles, radicalisme absolu. L'apôtre Jean, s'il prêchait dans nos églises aujourd'hui, il serait jeté à la rue. Parce que la première épître de Jean, qui présente la carte d'identité du vrai disciple de Jésus-Christ, est absolument intolérante. Celui qui est né de Dieu, ceci, 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 ceci. Un point, c'est tout. On peut prétendre être né de Dieu, si on ne correspond pas à ce que dit la parole de Dieu, on n'est pas né de Dieu. Même si on est le champion de la piété religieuse chrétienne en France. Alors j'espère et je demande à Dieu de tout mon cœur qu'il inscrive cela dans nos cœurs. Est-ce que vous réalisez aussi l'importance à partir de là, si vous êtes vraiment membre du peuple de Dieu, de connaître sa parole? Comment est-ce que vous allez discerner le loup, le faux docteur, le franc-maçon, la personne religieuse, pieuse, chrétienne, mais non convertie, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, de relations très près de lui, pour que le Saint-Esprit puisse allumer des clignotants sur le tableau de bord de votre cœur. Tentation de l'amalgame, la première des tentations.